day after day, alone on a hill. The man with the foolish grin is keeping perfectly still, but nobody wants to know him.
Tranche de vie, une émission proposée par JF.
And he never gives an answer, but the fool on the hill sees the sun going down, and the eyes in his head see the world spinning round.
Auditeurs de Tranche de vie, nous allons aujourd'hui explorer un domaine qui est assez peu connu, qui est celui de la psychiatrie. Et nous allons le faire avec Michel, qui a exercé la profession de psychiatre, mais qui, nous le verrons, a d'autres passions. Michel est à la retraite maintenant, et il va nous parler de son métier, de la manière dont il l'a exercé, et également de l'évolution de cette médecine de l'esprit. Michel, bonjour, merci de nous recevoir et de nous parler de votre métier.
Eh bien, bonjour et merci de cet intérêt pour une profession qui est peut-être pas si méconnue que ça, parce que depuis 30 ou 40 ans, elle s'est quand même elle a perdu de son aura maléfique, si je puis dire, et malheureusement aussi de plus en plus de gens ont besoin de ces services et sont amenés à côtoyer la psychiatrie sous ses différentes formes.
Comment êtes-vous venu à la psychiatrie ? Quelle était, est-ce que vous êtes venu à la psychiatrie par vocation, ou est-ce que c'est vos études de médecine qui vous y ont conduit, par quelle démarche ?
La vocation, c'est un terme que j'ai un peu de mal à concevoir, et je pense que c'est quelque chose qui évolue. Hein. Il en est de la vocation comme de la féminité selon Beauvoir. Je suis venu d'abord à faire de la médecine un peu par hasard, parce que quand j'étais lycéen, au départ, en entrant au lycée, j'aurais été plutôt intéressé par une profession d'ingénieur. Et puis j'ai très vite découvert que pour accéder à un métier d'ingénieur, il fallait faire les écoles préparatoires dans des sections où il y avait beaucoup de mathématiques. Et je dois dire que j'avais quand même intellectuellement un peu de difficulté avec la discipline mathématique. Beaucoup moins avec la physique, beaucoup moins avec la biologie. Et ce sont les profs du lycée en terminale, au moment où on préparait notre orientation, qui m'ont dit « Mais pourquoi feriez-vous pas médecine ? Vous pouvez réussir en médecine sans problème. » Je dois dire qu'au départ, c'était une idée que j'aurais pas eue. J'étais d'un milieu rural, avec des parents mi-agriculteurs, mi-ouvriers d'usine, et pour lesquels la profession médicale, c'était pas du tout, ça ne nous semblait pas accessible. Et je remercie encore ces professeurs de lycée qui m'ont donné cette idée, parce que je n'ai pas eu de difficulté à évoluer dans les études médicales. Et bon, j'ai commencé médecine, et en troisième année, il se trouve que j'étais dans une faculté de moyenne importance, où on avait quand même la chance d'avoir des relations assez proches avec nos professeurs. On les connaissait, ils nous connaissaient, ils étaient à la fois des maîtres mais aussi des conseillers, et une faculté également où avant même que l'on commence les stages hospitaliers obligatoires, c'est-à-dire à partir de la quatrième année, la faculté de Poitiers, puisque j'étais à la faculté de médecine de Poitiers, avait mis en place la possibilité, dès la troisième année, pour ceux qui le souhaitaient, de faire des stages à l'hôpital, deux ou trois demi-journées par semaine, dans les services dont les patrons acceptaient de prendre des stagiaires de troisième année. Et je suis allé un peu par hasard, parce que j'avais un copain qui était interne en psychiatrie, je suis allé faire un stage en psychiatrie. Et tout de suite, j'ai été séduit par cet aspect de la pratique médicale qui n'est pas toujours, même s'il repose sur des bases très scientifiques, il y a des aspects pratiques qui sont plus relationnels que scientifiques. Il y a une relation avec la personne que l'on prend en charge qui est beaucoup plus proche que dans d'autres disciplines médicales. On n'a pas l'aspect technique ou des machines qui viennent s'interposer. On est vraiment en prise directe avec les problèmes de la personne qui va nous les exposer ou bien ne pas les exposer, parce que souvent aussi les gens ne sont pas capables de mettre des mots sur ce qu'ils ressentent. Il faudra trouver d'autres manières d'accéder à leur souffrance qui est grande. Et donc j'ai commencé par ce stage clinique en troisième année. Ensuite, les vacances suivantes, c'était la dernière année où j'avais 3 mois de vacances. J'avais décidé de travailler pendant 2 mois sur les 3 mois de vacances. Et j'ai trouvé un stage de, même pas d'infirmier, d'agent hospitalier dans un service de psychiatrie. Et là encore, j'ai pu côtoyer les patients vraiment de très près et avoir une idée de la profession, non seulement sous son angle médical, mais aussi sous l'angle infirmier et soignant qui est encore plus près du patient. Et c'est ce qui m'a donné l'idée par la suite de faire une spécialisation en psychiatrie.
Alors, Michel, ce stage et puis cet emploi temporaire de vacances vous confirme dans votre orientation vers la psychiatrie. Mais est-ce que dès ce moment-là, vous avez été confronté, vous avez vu comment fonctionnait ce qu'on appelle la psychiatrie de secteur ?
Bien sûr, puisque la formation est à la fois une formation théorique et pratique et clinique, et que cette formation clinique se fait à travers l'internat, c'est-à-dire un travail quotidien au sein d'un hôpital. Et les hôpitaux psychiatriques, depuis les années 70, en tout cas après des circulaires dont les premières remontaient à 1960, mais dont l'application a été plus ou moins rapide, mais c'est concrétisé ensuite par d'autres circulaires sur la psychiatrie de secteur en 1973-74, si je me rappelle bien. Les hôpitaux psychiatriques, et en particulier celui de Poitiers où j'ai fait toute ma formation et mon internat, et ensuite le début de ma carrière de spécialiste, c'était un hôpital sectorisé qui alliait donc des services d'hospitalisation, mais également des consultations externes faites souvent loin de l'hôpital, dans ce que l'on appelait à l'époque des dispensaires d'hygiène mentale. Maintenant on appelle ça des centres médico-psychologiques, mais ce sont les centres de consultation qui sont situés à distance de l'hôpital, au plus près du domicile des patients, et où interviennent des équipes qui souvent d'ailleurs sont des équipes plus ou moins spécialisées, qu'on appelle équipes de secteur, c'est-à-dire des gens qui travaillent essentiellement dans ces centres médico-psychologiques et aussi par le biais de visites à domicile auprès des patients.
Alors, on a prononcé ce mot de secteur à plusieurs reprises. Est-ce que vous pouvez nous expliquer ce que c'est que la psychiatrie de secteur ?
Alors, la psychiatrie de secteur est un mode d'organisation des soins psychiatriques publics qui a donc vu le jour dans les années 60 à travers donc d'une circulaire de 1960, puis d'autres circulaires de plus organisationnelles en 74-75 pour aboutir à une loi en 1985. Ça, ce sont les aspects donc législatifs et réglementaires. Mais cette psychiatrie de secteur, elle est née d'une transformation de la psychiatrie publique, d'une évolution de la psychiatrie publique après la Deuxième Guerre mondiale et en même temps par l'évolution liée à la possibilité avec la naissance de nouveaux médicaments comme les neuroleptiques, dont c'est un terme souvent très décrié, mais il faut savoir que les neuroleptiques, ce sont aussi les premiers médicaments qui ont permis de soigner les pathologies mentales les plus graves, à savoir les psychoses, les délires, les schizophrénies. Et ces médicaments sont apparus en 1953-55 essentiellement et ont commencé à se développer et ont permis d'envisager une stabilisation de certaines pathologies mentales graves et une sortie d'hôpital psychiatrique. Alors que jusque-là, les patients qu'au XIXe siècle on appelait les fous, puis qu'on a appelé les malades mentaux, étaient des gens qui se trouvaient peu ou prou enfermés dans ce qu'on a appelé des asiles, puis après 1938 des hôpitaux psychiatriques. Et ils y étaient souvent enfermés ad vitam aeternam. L'apparition de thérapeutiques efficaces et également l'évolution des idées parmi les praticiens a permis d'envisager la sortie, la stabilisation, mais stabilisation ne veut pas dire guérison totale, donc il fallait continuer à suivre ces personnes et à les assister, même s'ils sortaient de l'hôpital, d'où l'apparition dans la décennie 60-70 de cette psychiatrie de secteur qui était une organisation des soins au plus près du domicile du patient. C'est-à-dire que ce qu'on appelle le secteur psychiatrique, c'est une aire géographique alors, qui était définie par sa taille initialement de 60-70 000 habitants. Donc une taille représentant dans les départements ruraux plusieurs cantons, en ville parfois plusieurs arrondissements, voire que la moitié d'un arrondissement selon la population. Mais donc une aire géographique avec une population de peu ou prou 70 000 habitants sur laquelle intervient une équipe pluridisciplinaire comportant psychiatres, psychologues, infirmiers qui se sont appelés infirmiers de secteur psychiatrique, aides-soignants, mais également médecins généralistes, ergothérapeutes, psychomotriciens, toutes les professions de santé qui gravitent autour du psychologique et de la maladie psychique. Donc cette équipe pluridisciplinaire est affectée à un secteur géographique et est chargée de la prise en charge des soins psychiatriques pour la population de ce secteur.
Alors, arrêtez-moi si je me trompe, mais on substitue ce système à celui des hôpitaux psychiatriques, de ce qu'on appelait les asiles de fous au XIXe siècle, et ce système, il est caractérisé aidé par les neuroleptiques, par la continuité et par la proximité. Est-ce que c'est bien ça ?
C'est tout à fait ça, continuité et proximité des soins. Et le système ne se substitue pas, il vient compléter le système des hôpitaux psychiatriques départementaux ou asiles d'aliénés départementaux, c'était leur première dénomination au XIXe siècle, système qui avait été organisé par une loi de 1838 sur l'internement. Et il faut savoir quand même que cette loi de 1838 est restée en vigueur, du moins pour ce qui concerne les modalités d'internement psychiatrique, elle est restée en vigueur jusqu'en 1990. Donc, elle a... Alors, certains disent qu'elle a sévi pendant longtemps. Et en tout cas, cette loi était toujours la base de l'organisation des soins psychiatriques au moment de l'apparition du secteur. Et les secteurs sont venus s'imbriquer avec les hôpitaux psychiatriques départementaux qui, à l'époque, existaient pratiquement dans tous les départements. Alors, avec, selon la taille du département, il y avait un ou plusieurs hôpitaux psychiatriques départementaux.
J'ai plusieurs questions à vous poser encore. La mise en place de la sectorisation, est-ce que ça a représenté un surcroît important de coûts de la médecine psychiatrique pour l'ensemble du territoire? Puisque vous avez parlé des équipes qui ont été constituées, de cette organisation avec les CMP, est-ce que ça reprenait, bon, pour les CMP, ça reprenait des choses qui existaient déjà, mais est-ce que les équipes ont été augmentées, au moins autant que... Tant que l'argent était là, est-ce que ça représentait quelque chose de beaucoup plus coûteux que le système antérieur ?
Alors bien évidemment, c'était plus coûteux puisque il est plus coûteux de se déplacer pour aller voir des gens à domicile, un par un, ou bien pour les recevoir en consultation dans un dispensaire, un par un, que de les avoir tous hospitalisés et même au départ c'était dans la même pièce, hein, les premières hospitalisations, et même moi j'ai connu encore en 1975 des salles communes de psychiatrie. J'ai le souvenir épouvantable de nuits de garde dans des services de psychogériatrie où il y avait, j'ai le souvenir d'une salle où il y avait 70 vieux malades psychiatriques, alors avec certains qui étaient devenus malades tardivement avec des démences qu'on appelle maintenant Alzheimer, mais d'autres qui étaient des patients psychotiques depuis leur jeunesse, qui avaient vieilli, et ils étaient là, 70 dans la même salle, avec les uns qui, quand on était appelé la nuit, on était appelé pour des embolies pulmonaires, des infarctus ou des édèmes du poumon, et ils mouraient sous les yeux terrifiés de leurs voisins. Les plus chanceux ayant pris suffisamment de médicaments pour pouvoir continuer à dormir malgré la lumière. Bon, il va de soi qu'il est plus coûteux de soigner les gens à l'extérieur, de prendre le temps de les écouter, de s'occuper d'eux, que de surveiller 70 personnes en même temps dans une salle commune. Donc dans des années 60 aux années 80, la société a engagé des frais pour cette sectorisation psychiatrique, et d'ailleurs les frais étaient partagés entre le secteur sanitaire pour la partie hospitalisation proprement dite, prise en charge par la sécurité sociale exclusivement, et un secteur médico-social avec une prise en charge mixte à la fois sécurité sociale mais aussi budget social des départements pour la partie soins extra-hospitaliers. Et cette double budgétisation a continué jusqu'à la loi sur le secteur psychiatrique de 1985. En 1985, il a été considéré que la sectorisation psychiatrique, c'était à la fois l'hôpital et les soins extra-hospitaliers. Donc il n'y avait pas besoin de séparer les deux financements. Donc tout est revenu sur un financement sécurité sociale, ce qui semblait tout à fait logique, puisqu'on était en termes de soins médicaux et d'hospitalisation et de rattachement des soins quand même à un pôle hospitalier. Mais ensuite, depuis les années 80, la santé est de plus en plus prise en charge, ou du moins est pensée plus par des économistes de la santé que par des praticiens de la médecine et des soins. Et on nous dit, et vous l'entendez tous les matins à la radio, vous le lisez tous les jours dans la presse, qu'on dépense trop pour la santé, que la sécurité sociale est en déficit et qu'il faut réduire les dépenses de santé. Et bien évidemment, quand on réduit les dépenses de santé, eh bien en psychiatrie où 80% de la dépense est une dépense humaine, une dépense de personnel, on s'aperçoit que la psychiatrie de secteur telle qu'on l'a connue et telle qu'elle devrait continuer à être est en difficulté, en grande difficulté et peut-être en passe de disparaître.
Ça, c'est l'impression que vous avez retirée disons, de la dernière décennie de votre exercice, et vous pensez que c'est une tendance qui risque de s'aggraver encore ?
Effectivement, c'est l'impression que j'ai eue de plus en plus, en particulier dans les 5 dernières années de mon exercice. Comme je le disais, j'ai réussi à monter dans les 3 dernières années de ma carrière, à monter ce qui me tenait à cœur, c'est-à-dire la possibilité d'avoir également à l'hôpital de Périgueux une unité pour accueillir les hospitalisations sans consentement, parce que jusque-là, elle se faisait à l'hôpital psychiatrique départemental à Montpon. Donc on ne peut pas dire que c'était à proximité du domicile pour les gens de Périgueux ou de l'Est de la Dordogne. Donc on a monté cette unité, on l'a montée avec de grosses difficultés et l'a même ouvert une année plus tard que prévu parce que le financement puis le recrutement du personnel ont posé problème. Mais d'après ce que j'en sais depuis que je suis parti, les choses ne s'arrangent pas. Et comme je le disais précédemment, l'avenir de la psychiatrie et de la psychiatrie de secteur est incertain. Alors, une seule chose est en train de s'améliorer par rapport aux années 80, au début des années 2000, une seule chose est en train de s'améliorer, semble-t-il, du moins localement, c'est le recrutement des psychiatres. Parce que, comme conséquence du numerus clausus de formation des spécialistes en médecine et des médecins en général, dans les années 2000, nous avons eu beaucoup de difficultés à recruter des psychiatres. Parce qu'on n'en trouvait plus suffisamment qui soient formés. Et les nouveaux internes, dont le cursus est plus long que précédemment, n'étaient pas encore formés. Alors, moi, j'ai cessé mon exercice depuis un peu plus d'un an. Quand je suis parti, il y avait à l'hôpital de Périgueux en psychiatrie au moins 4 postes vacants. Et à ma connaissance, il n'y en aurait plus qu'un, ou peut-être un et demi. Donc de ce côté-là, les choses semblent s'améliorer. Mais par contre, les difficultés de recrutement maintenant existent au niveau du recrutement du personnel infirmier.
Nous pourrions continuer à vous écouter pendant des heures, mais maintenant nous allons quitter ce domaine très sérieux dont nous avez évoqué l'évolution. Et sans laisser de côté les inquiétudes qui peuvent être suscitées par l'évolution de la médecine psychiatrique de secteur, je voudrais maintenant en venir à votre vie de retraité. Vous êtes à la retraite, donc vous avez plus de temps, j'imagine. Quelles sont vos passions ? Que faites-vous pendant votre retraite ?
Alors, ma vie de retraité, je crois que j'en parlais hier avec une personne qui m'interrogeait. Alors, vous faites plus de psychiatrie, est-ce que vous ennuyez pas ? J'ai dit non, j'ai pas du tout le temps de m'ennuyer, j'ai un emploi du temps qui est aussi chargé qu'avant. Mais j'ai changé d'orientation et je lui ai dit, j'ai sans doute toujours été un manuel contrarié, donc maintenant je suis devenu beaucoup plus un manuel. Donc je bricole, je fais du jardinage et je m'occupe également d'une passion que j'ai depuis maintenant une dizaine d'années, ça m'avait pris un peu avant la retraite, à savoir les voitures anciennes et même de façon encore plus spécifique et monomaniaque, les voitures anglaises des années 60-70, les roadsters anglais des années 60-70.
Allez, donnez-nous quelques noms, là, quelques noms fameux qui ont fait rêver des générations de jeunes gens.
Alors, bien sûr, les noms les plus fameux, c'est sans doute Jaguar, les Jaguar XK, les Jaguar E, les Austin Healey, et pour ma part, c'est plutôt le Triumph. Et puis également, j'ai une petite Austin Healey, mais les sprites qui sont un peu sur une base de mini, avec un moteur de mini, mais une carrosserie de roadster avec les deux gros yeux devant. C'est celle qu'on appelle la Frog Eye, une voiture des années 60 qui n'est pas du tout un bolide, mais qui est je dirais une espèce de 4 chevaux marrante.
Alors, un de vos passe-temps de la retraite, c'est d'entretenir, de restaurer ces véhicules, de les sortir de temps en temps. Mais pour ça, il faut un savoir-faire. Et vous l'avez acquis sur le tas ou bien vous avez une formation particulière pour ça ?
Alors, je dois dire que j'essaye d'entretenir mes véhicules et je me limite à faire par moi-même ce que je sais faire. Donc je ne touche pas trop à l'intérieur des moteurs ni à des organes mécaniques trop spécifiques. Je confie ça à des professionnels, mais on en trouve beaucoup. On trouve également maintenant par internet toutes les pièces que l'on veut, alors pas toujours dans la même qualité qu'elles avaient à l'origine. Mais il faut dire que également avoir la passion des vieux roadsters anglais, c'est être un peu masochiste, parce que à part peut-être les Jaguars, encore que c'était des mécaniques parfois un peu particulières, mais les autres que j'ai cités n'ont pas toujours la réputation d'être des mécaniques bien solides. Donc le but, c'est quand même d'essayer de les maintenir en état d'être roulantes, de faire des sorties avec des camarades de club et de confronter un petit peu ses expériences, ses pannes, ses bricolages et ses astuces pour les entretenir.
Donc ça fait partie de la sociabilité que vous entretenez à travers la participation à ces clubs de passionnés de vieilles voitures. Michel, d'autres passions en dehors des vieilles anglaises ?
Une autre passion, une autre occupation quotidienne, la lecture. J'ai toujours, depuis l'âge de... Enfin oui, depuis que je sais lire, je ne sais plus à quel âge ça remonte, toujours beaucoup lu.
Tes préférences en matière de lecture ?
Romans policiers, biographies, histoire, mais également les romans en tout genre.
Et plus de psychiatrie?
Alors la psychiatrie, je me tiens au courant, je suis toujours abonné à des revues, je me tiens au courant et je participe au conseil d'administration d'une association qui aide la vie sociale et le logement des personnes soignées en psychiatrie.
Ah, ça, c'est quand même très important, c'est une participation qui prolonge votre métier d'une manière quand même tout à fait notable. Michel, je vous remercie beaucoup et je vous souhaite de vous épanouir dans votre vie de retraité.
Merci à vous.
C'était Tranche de vie, une émission proposée par Jean-François.
And nobody seems to like him, they can tell what he wants to do. And he never shows his feelings, but the fool on the hill sees the sun going down. And the eyes in his head see the world.